Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Toujours sur Europe 1 et c'est la Libre Antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin en direct. Et puis à 1h du matin, la Libre Antenne continue avec la rediffusion de l'émission de samedi dernier avec Sana Blanger. Donc cette Libre Antenne va vous accompagner, vous aider à écouter ces histoires, à partager, à cheminer et puis peut-être vous amener à vous endormir doucement. Nous accueillons Flora maintenant au 3921. Bonsoir Flora.
Bonsoir.
Merci de nous de prendre de votre temps pour nous partager votre histoire.
Alors, vous voulez... C'est moi qui vous remercie du fond du cœur de bien vouloir m'écouter.
Alors, dites-moi tout.
Je suis très fort intimidée.
Oui, il faut pas.
Donc, comme je me suis expliquée auprès de Florian tout à l'heure, j'expliquais donc un petit peu ma solitude et ma vie présente auprès de ma mère qui est âgée. Mon papa donc est en EHPAD depuis très peu de temps. Je l'avais récupéré à la maison pendant 2 ans et demi pour m'occuper de lui.
Oui.
Et puis il était autonome, ça se passait très bien. Puis là, il a perdu l'usage de ses jambes. Donc, on l'a dirigé vers un EHPAD. Et bon, c'est très difficile pour lui, pour nous. Et puis ma vie tout court qui ressemble plus vraiment à quelque chose, en fait. Puisque je ne fais que me dévouer pour eux et je me suis complètement oubliée depuis des années déjà.
Vous avez des frères et sœurs, Flora ?
Un frère.
Oui.
Et un frère plus jeune de 4 ans.
Oui. Il a 46 ans, donc.
Voilà.
Et il vous aide un petit peu dans tout ça ou vous êtes la seule à vous démener ?
Oula, justement, le problème, c'est que non. Puisque, on était très proches pendant des années autrefois. Jusqu'au jour où il a rencontré une jeune femme avec qui il a fait sa vie. Et dès lors, il nous a tourné le dos. Il a décrété que maintenant, c'était sa vie. Et puis nous, on était derrière, en fait. Donc, moi, je me suis retrouvée livrée à moi-même, sans aucune aide de sa part, déjà. Mais à l'époque où il s'est détourné de nous, mon père n'était pas malade. Hein. Mon père était beaucoup plus jeune. Quand mon frère a déserté un peu la famille. Donc ça, c'était il y a longtemps.
C'est-à-dire du jour au lendemain, il ne s'est plus du tout occupé de vous.
C'est-à-dire qu'en fait, il travaillait dans le Var. Et puis, à bord d'un bateau. Après, il rentrait assez fréquemment. Et puis, quand il a rencontré cette jeune femme... il venait de façon très
épisodique.
Très espacée. Et puis ils nous ont fait quoi. Enfin, elle surtout m'a fait comprendre que mon frère maintenant c'était. Il fallait qu'un peu je l'oublie quoi, que j'oublie que j'avais un frère. Et elle m'a, on m'a fait comprendre que je le verrais de moins en moins quoi. Et puis donc il a commencé à être à s'éloigner de plus en plus. Pourquoi, je n'en sais rien. Et puis, voilà.
Donc, aujourd'hui, il ne s'occupe pratiquement plus de vos parents et vous êtes la seule à vous en occuper.
C'est-à-dire qu'il ne vient quasiment plus, oui. N'ayons pas peur des mots, il ne vient plus.
D'accord. Mm-hmm. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est un travail à plein temps, pratiquement, de vous occuper de votre maman, qui a quel âge aujourd'hui ?
Alors, ma mère, elle a 85 ans depuis quelques jours. Elle est autonome encore, elle est active, elle est dynamique, elle a toute sa tête, c'est une battante, elle se bat, elle est très courageuse.
Oui.
Et mon père, donc, lui, avait eu un souci, il y a quelques années, il a eu une forte dépression, il ne mangeait plus, donc on lui avait posé quelque chose au niveau du ventre, enfin pour qu'il y avait un petit tuyau pour qu'il s'alimente.
Oui.
Ah, il était relié à une petite machine. Bon, ça n'a duré qu'un temps, puisque, bon, avec notre encouragement, notre présence et tout, bon, il a remonté, il a réussi à se rééquilibrer. Donc, après, la machine a disparu. Il a remangé normalement et retrouvé un poids de forme et il est redevenu très bien. Il marchait, il avait toute sa tête. Enfin, il l'a encore, d'ailleurs, et bon, donc, il s'était retrouvé en EHPAD. Parce que je puisse... Pardon si enfin, j'ai du mal à m'exprimer.
Non, mais tout va bien.
Parce que je suis très intimidée.
Mais non, il ne faut pas.
Puis je n'ai pas les mots. Donc, en fait, il s'était retrouvé en EHPAD parce que, comment dire, en fait, oui, de par le fait qu'il ne mangeait pas, qu'il avait cette machine... on avait estimé que c'était mieux pour lui. Donc, il y restait un certain temps, un an et demi, ce qui est quand même beaucoup.
Oui.
Et il était fort malheureux. Donc, je me suis évertuée de toutes mes forces à le sortir de là. Ça n'a pas été évident, mais je me suis battue, j'y suis arrivée. En changeant de médecin, j'ai trouvé un médecin qui a été formidable et qui m'a aidée à le récupérer. Donc, je l'ai récupéré. Et non seulement je l'ai récupéré, mais il a repris des forces et il avait un très bon appétit. Il était, il allait très bien. Il avait repris beaucoup de poids et ça s'est très bien passé. Et il est resté ici 2 ans et demi.
D'accord.
Mais il se trouve que j'avais un toutou, un labrador, une chienne, qui était donc le bébé de la maison. Puisque moi-même, je n'ai jamais eu d'enfant. Et donc, nous avons eu toujours beaucoup de chiens, des labradors notamment. Donc, cette chienne, elle prenait toute la place. Et cette chienne est décédée en octobre 2018.
Oui.
Ça l'a fortement touchée, je pense, parce qu'il n'exprimait pas les choses, mais je sais que ça l'a beaucoup atteint. Et dès lors que cette chienne a disparu, moi, je me suis effondrée, puisqu'elle était tout... elle était tout pour moi. Et donc, lui, ça l'a beaucoup affecté. Et à partir de là, il a commencé à ne presque pas marcher. Il a perdu petit à petit l'usage des jambes. En plus, il est diabétique, je ne l'ai pas dit. Donc, le diabète, c'est un fort impact donc sur les jambes, sur beaucoup de choses. Donc, il a commencé à ne plus marcher. Et là, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. C'est devenu une charge beaucoup plus lourde pour moi.
Oui.
D'autant qu'on a eu du mal à trouver des personnes pour nous aider. Ça n'a pas été évident. Donc,
vous parlez d'aide à domicile, par exemple ?
Des infirmières, tout court.
Oui.
On a eu du mal à en trouver. Voilà, donc il a fallu que l'on gère comme l'on a pu. Jusqu'à ce que son état diabétique s'est un peu dégradé. Et là, on a décidé de le faire hospitaliser. Il a été 2 mois et quelques. Et lors de cette hospitalisation, il a été décrété par une assistante sociale et un docteur diabétologue, voilà, qu'il ne devait pas réintégrer domicile, mais qu'il serait mieux un EHPAD. Et donc là, ils l'ont dirigé vers un EHPAD. Il a atterri en EHPAD en juillet, à mi-juillet à peu près.
Oui.
Il n'y restait que 4 jours ou 5 parce qu'il est tombé dans une grande déshydratation. Enfin, il était déshydraté et anémié, ce qui est une chose complètement folle alors qu'il sortait quand même de 2 mois et quelques d'hospitalisation. Et on n'avait pas décelé une anémie qui était là depuis fort longtemps sûrement. Donc cette anémie et cette déshydratation et puis une décompensation du diabète l'ont amené donc à être à nouveau hospitalisé dans un hôpital où il a passé plus d'un mois cet été, où on allait le voir tous les jours, voilà, pour pour l'entourer au maximum. Et donc après, il a réintégré l'EHPAD où il est à présent depuis un mois et demi.
Comment est-ce que vous... Vous le vivez, et est-ce que lui, il accepte d'être dans un EHPAD, il comprend que ça n'est plus possible d'être à la maison ou c'est quelque chose qui...
C'est-à-dire que, pardon, parce que je suis fort émue pour... pardon. C'est que moi, j'aime plus que tout mon père. Oui. Il m'a beaucoup aidée dans ma vie. Ça a été un homme exceptionnel. J'ai fait tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour l'aider, pour être auprès de lui.
Oui.
Mais là, j'avoue, à présent, j'abdique. J'abdique parce que je sais qu'il s'y plaît sans s'y plaire. Il est soigné. Il est encadré. Bon, elles sont plus ou moins gentilles. Mais il est entouré et puis il a tous les soins, enfin tout ce qu'il faut.
Il est loin de vous, cet EHPAD ?
Le problème, c'est très bien, Olivier, que vous disiez cela, puisqu'il n'est pas dans la ville même où nous habitons.
Oui.
Il est à quelques kilomètres, 7 et demi. Bon. Le problème, c'est que ma mère, vieillissante, fatiguée, ça va l'amener à être obligée de se déplacer. Ça va être très compliqué pour elle.
Oui.
Ils sont très, très liés, très aimants l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ça fait 54 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés.
Oui.
Ils s'aiment énormément. Et le bas qui blesse, il est là, quoi.
Et parce que... aujourd'hui, en fait, même si votre maman est tout à fait vaillante,
absolument.
Est-ce qu'il y a une solution d'appartement dans cet EHPAD où ils pourraient vivre tous les deux au moins parce que...
Absolument, ça c'est très, très judicieux et très bien de votre part. C'est justement, moi j'évoque régulièrement cet aspect-là avec elle, en lui disant, tu sais, finalement la solution, elle est toute trouvée. Ce serait que vous soyez tous les deux.
Et qu'en pense-t-elle de ça ?
Elle ne, absolument pas.
Ah oui.
Elle veut
quitter sa maison.
Sa liberté. Ah oui, elle détesterait l'idée. Oui. Malgré l'amour immense qu'elle lui porte, elle ne supporterait pas l'idée de.
Alors j'ai envie de vous dire, Flora, que vous, il faut que vous lâchiez prise sur.
C'est
l'histoire de vos parents. Et bien évidemment, elle vous impacte, cette histoire. Mais il faut vraiment que vous pensiez à vous, parce qu'on va parler de vous ensuite. Parce qu'il me semble aussi qu'il faut, que vous évoquiez votre passé et quelques événements qui vous ont déterminé. Et donc, c'est important que dans un premier temps, l'histoire de vos parents reste l'histoire de vos parents. Alors, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est important que votre maman ayant toute sa tête, il faut vraiment miser là-dessus et la laisser décider, elle, parce que cette histoire-là, ça les regarde tous les deux, surtout s'ils ont passé 54 années ensemble. J'ai envie de vous dire en plus que, à mon avis, ils souhaitent l'un comme l'autre plus que tout que vous fassiez votre vie et que cette histoire, c'est la leur. Parce qu'en tant qu'enfant, on se sent bien évidemment toujours touché par ses parents et puis on veut faire au mieux. Mais il y a un moment où la situation, telle que vous me la décrivez, elle vous impacte beaucoup déjà, puisque vous vous occupez de votre maman. Vous m'avez dit au début de votre témoignage que ça vous avait amené à vivre une grande solitude, vous, à 50 ans.
Ma vie, ça n'est que la solitude.
Mais oui. Et donc, voilà, cette maman, elle va prendre sa décision. Et si elle a décidé de ne pas quitter sa maison, on peut comprendre. Sa maison, c'est important, cette maison. Se retrouver dans un EHPAD, même si elle est avec son bien-aimé, avec qui elle a passé 54 ans, c'est tout de même quitter sa maison, se retrouver... avec des personnes qu'elle ne connaît pas obligatoirement, et puis c'est se retrouver avec des personnes âgées. Et c'est une étape très difficile, à mon avis, à franchir.
Absolument, très, très, très.
Mais vous, il faut que vous lâchiez prise, parce que...
J'essaye.
Ouais.
Je me fais tous les jours que Dieu veut, je me fais violence, et je me dis, j'essaie de travailler sur moi-même, en me disant que je dois laisser tomber, que je dois laisser faire les choses, même si je précise que financièrement, nous n'avons pas des moyens exceptionnels,
oui.
Que ça va avoir un coût phénoménal. Mais bon, malgré cela, je me dis, même si ça a un coût, c'est peut-être pas ce qui doit m'empêcher de penser que c'est peut-être mieux comme ça pour lui et pour que ça nous permette aussi de vivre un peu aussi. Parce que s'il revenait ici, si toutefois il revenait ici, on pourrait toujours tenter de le faire revenir. Mais quelle vie nous aurions ? Et serait-il heureux lui-même ? Enfin, c'est...
Parce qu'il y a quand même une possibilité pour qu'il rentre à la maison à un moment ?
Y aurait une possibilité, oui, si on s'en donne la peine, on pourrait, mais il faudrait, ouais, un personnel, je veux dire, ouais, soignants.
Des aides à domicile.
Voilà, domicile, et puis il a quand même un lit médicalisé.
Oui.
Donc,
ça coûte cher.
Voilà, ce qui indique que ce lit se retrouverait dans la plus grande pièce de la maison, le salon.
Oui.
À savoir que ce serait comme une chambre à coucher,
oui.
Qu'on serait complètement à ses petits soins et que notre vie s'en ressentirait parce qu'on n'aurait plus de liberté.
Oui.
Parce que même si des soignantes venaient régulièrement et faisaient donc le travail de le soigner, etc., les toilettes, tout ça, nous, notre vie, que deviendrait-elle ? Donc ça, j'y pense et je pèse ça beaucoup.
Vous arrivez à échanger avec votre mère
Justement, c'est-à-dire que maman, comme j'ai évoqué avec ce gentil monsieur là, Florian.
Oui, il est très gentil.
Très formidable, formidable. Qui m'a donc mis à l'aise et aidé à parler parce que j'ai du mal à m'exprimer.
Oui, mais vous exprimez très bien, vous savez.
Ah bon, je doute énormément
non,
de moi.
Oui,
je n'ai absolument pas confiance en moi. Donc en fait, comme j'expliquais à ce gentil monsieur, que ma mère et moi, c'est une longue histoire.
Oui.
C'est une maman qui a fait ce qu'elle a pu. Bon, je ne lui en veux pas tant que ça, mais elle m'a pas donné l'amour que l'on peut attendre d'une maman, puisque elle a perdu sa mère jeune. Elle avait à peine 20 ans. Et donc, je pense qu'elle avait des frères et sœurs, je peux le préciser peut-être, qui ont été pas très sympas, pas très gentils avec elle.
Oui.
Et qui ont même été odieux. Je n'ai pas peur de le dire avec mon père et avec moi. Et c'est vrai que moi, je me retrouve aussi... J'ai été petite et adolescente, victime un petit peu de son frère, de sa sœur, de sa famille, qui n'ont jamais vraiment accepté mon père. Ni ce mariage qu'ils ont eu, voilà, et encore moins ma naissance. Donc moi, cette victimisation, elle date de longtemps.
Oui.
Donc j'ai eu ce fardeau en plus. En plus.
Ce qui a beaucoup contribué à ce que vous n'ayez pas confiance en vous aujourd'hui.
Oui, quand vous avez un oncle et une tante qui vous font, qui vous montrent que vous n'êtes pas la bienvenue, que votre père est ceci, enfin les critiques les plus méchantes, les plus inhumaines, enfin j'en passe, je voudrais pas rentrer dans les détails.
Oui.
Donc moi j'ai vécu beaucoup, enfin je n'ai vécu de petite à aujourd'hui que beaucoup d'injustices, faire des différences, du rejet, enfin j'ai connu ça.
Mm-hmm.
Moi je l'ai pris de plein fouet, voilà, au sein de cette famille. Du côté de ma mère. Et malheureusement, du côté de mon père, il n'avait pas de frères et sœurs. Il était fils unique. Donc, ma grand-mère, que j'ai bien connue et qui a vécu très longtemps, puisqu'elle est décédée, moi j'avais plus de 20 ans. Et je n'ai pas connu mon grand-père, donc le papa de mon père, qui est décédé, j'avais à peine 5-6 ans. Je l'ai à peine connu. Donc voilà, donc c'était très limité du côté de mon père et du côté de ma mère, c'était des gens relativement épouvantables. N'ayons pas peur des mots, voilà. Donc moi j'ai dû me construire avec toujours l'impression d'avoir à me battre,
d'avoir à vous imposer,
défendre,
ouais.
D'avoir à combattre.
Mm-hmm.
Pardon de dire ça, d'avoir à défendre mon père. À défendre ma mère contre ces gens, contre cette famille.
Et c'est fatigant, ça. Hein.
Pardon ?
C'est fatigant de tout le temps être dans le conflit comme ça.
Bah, c'est même pas un conflit, c'est que c'était des gens qui s'autorisaient à décider de notre vie. Qui s'autorisaient à décider pour ma mère, qui l'a monté contre mon père, etc., etc. Et qui, voilà, moi j'ai vécu ça. Et j'ai dû me défendre bec et ongle pendant des années et protéger mon père et ma mère et me protéger. Et c'est épuisant, c'est usant.
Surtout que vous avez eu un accident qui vous a pas mal impacté, hein, me semble-t-il. Florian m'a dit
oui,
ça.
Absolument, ouais. Absolument. J'ai eu un accident dans une piscine,
oui,
où j'allais faire des longueurs. Et mon frère était à mes côtés. Et ce jour-là, j'avais appris une mauvaise nouvelle, enfin, la veille ou l'avant-veille, j'étais très fatiguée. Et je suis rentrée dans la piscine fatiguée, peut-être trop. Et puis j'ai failli me noyer, j'ai commencé à couler.
Oui.
J'ai eu une crise de tétanie, tétanisée, et je ne pouvais plus faire un mouvement. Et je me suis retrouvée comme ça dans l'eau et j'ai commencé à couler.
Ça vous a beaucoup, beaucoup marqué, hein, ça, hein.
Énormément, ça a plombé ma vie,
ouais,
puisque ça a scindé ma vie en deux, la vie d'avant et la vie d'après.
Est-ce que vous avez travaillé sur cet événement-là avec un psy
Avec un psychiatre ou un psychologue, oui, parce que je me trouvais dans la ville où je travaillais, j'avais rencontré un psychiatre dans un premier temps qui m'a suivi une bonne année quasiment. J'avais fait un bon travail. Ça avait porté ses fruits parce que moi en fait ai-je le droit d'en parler, mais j'ai quand même développé après cet accident une phobie de l'eau.
Oui, bah c'est normal.
Très conséquente. Et quand je dis phobie de l'eau, je suis gentille parce que c'était au-delà. Ça s'est accentué parce que malgré le suivi avec le psychiatre, cette phobie était très importante. Et ça même, ça se portait sur ma vie de tous les jours. Du mal à sortir, de la peur, pour tout, pour rien. C'était la peur de qui j'avais peur de tout en fait, et presque la peur d'avoir peur. Donc c'est une phobie qui est devenue un réel handicap.
Vous dites que vous êtes passé d'une vie riche à une vie vide.
Complètement.
Ouais.
Mais d'une vie riche, d'une vie où je travaillais beaucoup, où j'ai voyagé, j'ai voyagé à l'étranger beaucoup.
Ouais.
J'ai rencontré des gens très intéressants. J'étais dans l'hôtellerie, dans des grands hôtels, où j'ai côtoyé des gens intéressants. Ça me plaisait énormément. Ce travail dans l'hôtellerie me plaisait beaucoup, m'apportait beaucoup. Je faisais beaucoup de sport, ou du ski, ou enfin du tennis. Je nageais. Enfin, je pense que j'avais une vie relativement normale. Voilà. Je me battais. Enfin, j'étais relativement indépendante. Et puis à partir du moment où j'ai eu cet accident, ben je ne me suis plus reconnue, je ne me suis plus retrouvée.
Comme si vous aviez perdu pied, hein.
Ben j'ai perdu pied, j'ai l'impression que je n'étais plus la jeune femme d'avant.
Ouais.
J'ai même un repère qui me revient maintenant. Il m'était arrivé lors d'un voyage à l'île Maurice. J'avais fait du parachutisme ascensionnel, qui est une chose qui est assez impressionnante. Et quand je repense juste à cette chose-là et que je me dis qu'après, j'avais presque peur de prendre une bicyclette ou de sortir ou de rentrer dans un magasin, enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est fou de vivre à peu près normalement,
ouais,
comme tout un chacun, comme tous les gens qui sont autour de nous, et puis tout d'un coup, ben, basculer dans un truc qu'on ne connaît pas et se dire « mais pourquoi moi ?»
Ça vous a fait prendre conscience de quoi, cet accident, en fait, que vous pouviez mourir du jour au lendemain? Qu'est-ce que ça a transformé dans votre vie, en fait, dans votre conception de la vie?
Ça m'a appris que oui, j'aurais pu mourir, Et peut-être aussi ça fait revenir à la surface aussi des choses qui m'étaient arrivées autrefois, que j'avais cru enfouies, que j'avais cru qui étaient, comment dirais-je, que j'avais cru disparues, qui m'étaient arrivées. Et des choses se sont... Cet accident, il a réveillé plein de choses.
Ouais.
Il a été un révélateur de beaucoup de choses. Mmh. Que j'avais cru avoir digéré, mais que je n'avais pas digéré.
Ouais. Ouais, je comprends. Ça vous a confronté à quelque chose qui vous était totalement étranger, hein, c'est-à-dire la mort, bien évidemment, mais
oui.
Vous avez réalisé que voilà, qu'on n'était pas grand-chose, en fait. Hein,
et, absolument.
Et vous êtes mis à craindre que ça arrive à n'importe quel moment, tout le temps.
Tout le temps.
Ouais.
Mais à partir du moment où je suis rentrée de la piscine... j'ai réussi avec l'aide de monsieur qui m'a ramenée, mon frère, j'ai essayé de me rafraîchir et de m'asseoir parce que j'ai quand même eu un blanc au sortir de cette piscine maudite. J'ai eu un blanc, donc j'ai une perte de connaissance petite, enfin, qui n'a pas trop duré. Et quand je suis revenue à moi, bon, je tremblais de partout, donc on m'a ramenée chez moi. Et puis là, à partir de là, j'ai essayé de me rafraîchir, donc de même de prendre une douche. Ça a été impossible. J'ai de suite fait une crise, un état de panique énorme. Mmh. Et là, j'ai compris que c'était le début de l'enfer. Quoi.
Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez depuis évolué? Vous avez pu travailler un peu sur tout ça?
Alors, déjà, la phobie, la phobie de l'eau, c'est fini. Je n'ai plus peur de l'eau depuis longtemps. J'ai réussi à affronter, j'ai réussi à renager,
oui.
Ce qui m'a été impossible pendant 2 ou 3 ans. Et puis, tout ça, je l'ai dépassé. Par contre, j'ai eu du mal à sortir de chez moi pendant très longtemps. Je m'empêchais de sortir parce que, enfin, je m'empêchais, j'avais peur.
Oui.
Et donc, ça limitait ma vie sociale. Donc, j'ai eu une vie sociale très étriquée pendant 2 ans et demi. Voire inexistante. Et après, petit à petit, je me suis battue et petit bout par petit bout, j'ai réussi à ressortir, à le revivre à peu près normalement.
Bon, vous avez quand même fait un travail énorme sur vous parce que revenir de ça...
Toute seule, et je précise, sans médicamentation, sans antidépresseur que j'ai toujours refusé.
Ouais, c'est génial.
Sans aucun anxiolytique, juste de par peut-être la volonté et... un acharnement que j'ai peut-être au fond de moi, quelque part, oui.
Alors, pour conclure, Flora, oui. Je vous conseillerais de mettre autant de volonté à prendre les bonnes décisions, là, pour votre quotidien.
Oui.
C'est important que vous pensiez à vous, aujourd'hui. Je vous répète que l'histoire de vos parents, même si vous avez l'impression que votre vie en est imprégnée, ça reste quand même leur histoire et que vous, votre histoire, vous l'écrivez actuellement, mais qu'il faut que vous réussissiez à sortir de cette solitude en pensant à vous, parce que vous avez su vous sortir de ce choc énorme, hein, parce que j'ai failli moi-même me noyer aussi, et je sais combien c'est très particulier,
c'est très marquant. Et même, c'est tellement marquant que quand je vois à la télé des grandes immensités d'eau,
oui.
Il y a toujours un truc, clac, ça, j'ai le ventre qui se...
Oui, c'est normal.
Ouais. Il y a encore des flashs, ça revient encore.
Alors ça, c'est la partie de votre inconscient qui se réveille et qui est assez incontrôlable parce que ces grandes étendues d'eau vous rappellent...
Oui, cette piscine. La profondeur de la piscine.
Voilà.
Ouais,
et puis même, on n'a pas besoin de vivre ce genre d'épisode pour être impressionné par l'océan, la force de la mer, enfin les éléments. Hein. Donc,
oui,
ça,
c'est vrai.
Quand on vit ça, ça nous, bien évidemment, ça nous choque, mais je pense que ça, quand on fait le chemin que vous avez fait, ça rend plus fort aussi parce que ce chemin-là, il est fait et on a vraiment assimilé au bout du compte. La puissance des éléments contre,
c'est vrai.
Contre laquelle on ne peut pas lutter. Mais
absolument.
Justement, parce que vous avez réussi à faire ce travail sur vous par rapport à cet événement, c'est oui. important que aujourd'hui vous vous atteliez à combattre cette solitude, c'est-à-dire vraiment à vous répéter qu'elle ne doit pas durer, cette solitude. Et oui. pour qu'elle ne dure pas, il faut poser des actes, c'est-à-dire décider de faire des choses pour vous, Flora, pour vous, et uniquement pour vous. Parce que vos parents vont vieillir, leur histoire va évoluer. Et encore une fois, même si, bien évidemment, vous avez l'impression que cette histoire, elle est la vôtre aussi, dans le fond, l'enjeu principal dans cette histoire, ce sont vos parents qui le résoudront, qui le construiront, qui l'affineront, et qui trouveront la solution. Vous verrez. De toute façon, vous ne pouvez pas trouver la solution pour eux. Vous pourrez aider, mais aider du mieux en ne vous oubliant pas. Parce que c'est important.
Mais je me suis oubliée pendant des années et j'ai été habituée à m'oublier.
Et ouais,
je me suis habituée à cet état de fait.
Mais ça peut changer, ça, Flora, ça peut changer.
Oui, c'est vrai.
Ça peut changer. Et alors, je vais répéter... quand on s'est oublié longtemps comme ça, c'est vrai qu'il n'est pas facile de changer ses habitudes, hein, ses habitudes de solitude. On change, on évolue, on prend des réflexes qu'on croit inchangeables. Mais finalement, quand on fait des efforts, parce qu'il faut faire des efforts quand on s'est un peu enfermé dans cette solitude, quand on a ses réflexes, eh bien, on part du principe que ça ne changera pas. Mais il faut se faire violence un peu, comme vous m'avez dit, vous avoir fait violence aussi par rapport à tout un tas de choses dans votre vie pour y arriver, pour remonter la pente. Oui. Aujourd'hui, la pente à remonter, c'est celle-là. Et c'est de vous offrir des choses pour vous, Flora. Et, oui. Et pour ça, il faut essayer de sortir, il faut essayer d'avoir des activités qui vous plaisent avec d'autres personnes et les partager avec d'autres personnes. Alors, soit des amis que vous avez déjà, mais si ces amis ne sont pas là, eh bien... il faut que vous vous renseigniez sur les différentes activités qu'il y a dans votre région, des applications. Maintenant, aujourd'hui, la technologie fait que nous avons tout un tas d'applications qui nous permettent d'aller au théâtre, d'aller dîner, d'aller à une exposition, d'aller où on veut, en fait, avec des gens qui ont les mêmes envies que nous. Et c'est une chance. Vous voyez, là où avant, on regardait ces technologies... on avait un peu honte d'en parler, de dire qu'on en profitait un peu. Vous voyez, oui. Je pense à tous ces gens qui se sont rencontrés grâce à Internet. Avant, on avait honte de ça. Mais aujourd'hui, regardez combien c'est rentré dans les mœurs et combien c'est quelque chose maintenant qui fait partie de notre vie. Et ben, au même titre que ça, on peut se faire des amis. Et à partir du moment où on se recrée un tissu sociétal, tout est possible, tout est possible. C'est ce que j'expliquais hier à Nathalie, que nous avions hier soir en ligne. Tout est possible à partir du moment où on fait cet effort de prendre son téléphone, son ordinateur, et puis d'aller cliquer, et puis de voir ce qu'on nous propose, et puis de choisir, et puis de le faire une fois, et puis peut-être se lier avec une ou deux personnes, et puis recommencer. Et puis, mais en tout cas, à 50 ans, on est jeune. Regardez, aujourd'hui, votre maman, elle en a plus de 80 et... elle est encore vaillante. Donc, vous vous rendez compte, tout le temps qui vous reste. Et ce temps-là, il va falloir que vous le passiez avec, avec des amis, avec des connaissances pour vous. Et puis, peut-être que vous rencontrerez aussi un homme qui a les mêmes envies que vous, envie de vous accompagner un peu plus loin. Et tout est possible, en tout cas. C'est ce que je veux vous dire ce soir. Tout est possible.
D'accord. Merci du fond du cœur.
Mais je vous en prie. Et puis, bravo pour le courage que vous avez d'avoir remonté la pente suite à cet accident vraiment choquant. Et puis, ça prouve, vous savez, que vous avez beaucoup de force. Et souvent, on ignore cette force que l'on a en nous. Donc, vous savez, vous l'avez mise à l'épreuve, cette force. Donc, vous savez que vous l'avez. Donc, oui. mettez-la à votre disposition. Offrez-vous ce cadeau. Vous avez les moyens de vous offrir ça pour vous. D'accord ?
Oui.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée, Flora, une bonne nuit. Et je vous remercie encore mille fois d'avoir fait l'effort aussi de nous appeler ce soir.
Ben, c'est moi qui vous remercie de votre humanité, de votre gentillesse, enfin pour tout. Quoi.
Et je vous en prie,
Au revoir.
Passez une bonne nuit, au revoir.
Au revoir, bonne nuit, au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.